life. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong.
RCJ, à l'écoute de votre vie. RCJ Midi, Elsa Parienté.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCJ. Si vous nous rejoignez, il est midi dans cette édition l'actualité israélienne, notamment avec Margot Tiffer, les explications de Cathy Bisrar sur la grève qui a débuté ce matin en Israël et le portrait de l'ex-otage assassiné par le Hamas, Hersh Goldberg-Polin, par Laurence Goldman. Puis notre premier invité ce midi, Grégory Veitz, avocat en Israël et membre du Center for Jewish Impact. Nous serons ensuite en ligne avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Notre page culture en fin d'édition, les livres avec Josiane Savigno et le spectacle culte d'Amélie Blochstein-Nidam. Et pour finir, l'histoire juive du jour avec Jérôme Attal. Et avant tout ça, place à l'actualité.
Le journal Margot Tiffer.
Bonjour Margot.
Bonjour Elsa, bonjour à tous. Le Hamas est responsable et payera le prix fort de la mort des 6 otages en captivité. Ce sont les mots ce matin sur X du ministre israélien des Affaires étrangères en référence au décès de Carmel Gat, 40 ans, Eden Yerushalmi, 24 ans, Hersh Goldberg-Polin, 23 ans, Alex Lobanov, 32 ans, Almog Sarouzi, 27 ans, et Ori Danino, 25 ans. L'État hébreu répondra avec toute la force à ce crime odieux, précise Israël Katz. Et parmi les 6 otages retrouvés assassinés hier par l'armée israélienne dans un tunnel de Gaza, il y a ce jeune israélo-américain de 23 ans dont la famille luttait sans relâche depuis le 7 octobre pour obtenir sa libération. On en parle avec vous, Laurence Goldman.
En 2008, Hersh Goldberg-Polin a 7 ans lorsque ses parents décident de quitter les États-Unis pour faire leur allié en Israël, accompagnés de leurs 3 enfants. Quelques années plus tard, il y a presque un an, le vendredi 6 octobre, la famille se rend à la synagogue puis à un dîner de Shabbat chez des amis. À 23h, Hersh, qui rentrait d'un voyage en Europe, annonce qu'il part camper avec son meilleur ami. Le lendemain, samedi 7 octobre, à l'aube, sa mère Rachel reçoit 2 messages WhatsApp. Hersh est au festival de musique Nova dans le sud du pays. Dans ses messages, il dit à ses parents qu'il les aime et qu'il est désolé. Pendant 36 heures, sa famille pense qu'il est mort. Elle apprend ensuite que Hersh a été enlevé à Gaza par les terroristes du Hamas avec 250 autres personnes. Sur une vidéo retrouvée plus tard, Hersh et son ami sont vus dans un abri de campagne bondé, rempli de festivaliers tentant d'échapper à l'attaque barbare du Hamas. Hersh a le bras arraché lorsque les terroristes lancent des grenades à l'intérieur de l'abri. Son ami Avner Shapiro réussit à renvoyer à l'extérieur 7 de ses grenades avant d'être tué en héros.
Et depuis le 7 octobre, la famille de Hersh Goldberg-Polin multipliait les efforts pour mobiliser l'opinion publique internationale en faveur de son fils et des autres otages israéliens détenus par le Hamas, Laurence.
Joe Polin et Rachel Goldberg se seront battus pendant 11 mois, rencontrant des responsables à travers le monde. Devant le bureau de Rachel à Jérusalem, une bannière en anglais et en hébreu ramener Hersh à la maison avec un dessin de son fils aîné. Natif de Chicago, cette femme de 53 ans est devenue ces derniers mois l'un des emblèmes des familles d'otages, accordant des interviews où elle évoque ses prières quotidiennes, ses insomnies, ses 2 filles de 18 et 20 ans qui la maintiennent debout. Rachel Goldberg réussira à rencontrer le président américain Joe Biden ainsi que le pape François. Elle prendra également la parole à l'ONU pour attirer l'attention sur la cause des otages qu'elle qualifie de crise humanitaire mondiale. En avril dernier, cette juive pratiquante est propulsée par le Times Magazine comme l'une des 100 personnalités les plus influentes de l'année. Avril, c'est aussi la date de la publication par le Hamas d'une vidéo sur laquelle apparaît Hersh. On le voit pâle et amaigri, amputé d'une main. Il s'agit du premier signe de vie du jeune homme depuis le 7 octobre. Rachel et Joe Pauline Goldberg implorent alors le gouvernement israélien d'agir pour parvenir à un accord. Ils appellent leur fils à rester fort.
Et le 22 août dernier, les parents de Hersh sont intervenus lors de la convention démocrate de Chicago.
Sous les applaudissements et les cris « ramenez-les à la maison », le couple Pauline Goldberg est entré sur scène pour livrer un témoignage déchirant. Rachel s'effondre en pleurs, parlant de son fils, l'un des 8 citoyens américains otages à Gaza, comme d'un jeune homme plein d'humour et très curieux. Il adore le foot, raconte-t-elle. Il est dingue de musique, c'est aussi un passionné de géographie. Son époux, Joe, livre lui un appel plein de gravité à un cessez-le-feu, évoquant le désespoir dans la bande de Gaza. Dans une compétition de douleur, il n'y a pas de gagnant, dit-il.
Et c'est Joe Biden qui a annoncé samedi soir la mort de Hersh Goldberg-Pauline, dont le corps a été retrouvé dans un tunnel de Gaza avec ceux de 5 autres otages.
Le chef de la Maison-Blanche s'est dit dévasté et indigné. « Ne vous y trompez pas », a-t-il dit. « Les dirigeants du Hamas paieront pour ces crimes ». Joe Biden a évoqué les parents de Hersh faisant part de son admiration à leur égard. De son côté, la vice-présidente, candidate à l'élection présidentielle de novembre prochain, a dit « prier pour les proches du jeune homme », qualifiant le Hamas d'organisation terroriste maléfique. Joe Biden et Kamala Harris doivent rencontrer aujourd'hui à la Maison-Blanche l'équipe de négociateurs américains qui participent au pourparlers en cours entre Israël et le Hamas.
Merci Laurence Goldman. On apprend aussi ce matin qu'Enav Danino, la mère d'Ori Danino, avait reçu un signe de vie de son fils il y a 3 semaines. Et en réaction à l'exécution de ces 6 otages par le Hamas, une grève illimitée a débuté à 6h ce matin. Elle prendra fin ce soir à 18h. En attendant, les écoles maternelles et les universités sont fermées. Les vols à l'aéroport de Ben-Gurion sont annulés. Des manifestations ont également lieu dans plusieurs villes du pays, notamment au carrefour de Shilat près de Modine, où une centaine de personnes se sont rassemblées. En réponse, l'État a déposé à la demande de Benjamin Netanyahou et de Bezalel Smotrich une pétition contre cette grève générale dans l'économie. Une grève qui divise, comme nous l'explique ce matin notre correspondante sur place, Cathy Bisraor.
Vous avez les gens qui veulent cette grève, qui en général ce sont les opposants au gouvernement, et une partie seulement, une partie des familles des otages, une partie importante, mais pas tout, des familles des otages, qui disent, responsables de cette tragédie, de cette catastrophe, de ces 6 otages qui ont été tués 48 heures apparemment avant d'avoir, dont les corps ont été retrouvés par Tzal, c'est la faute de Benjamin Netanyahou. Et d'ailleurs, sur une des voitures du convoi de Benjamin Netanyahou, un des manifestants a écrit Netanyahou meurtrier. Et ce n'est pas le seul incident. Véritablement, beaucoup de colère contre Benjamin Netanyahou en disant c'est Netanyahou qui a le sang sur les mains, en fait, ni plus ni moins. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, et également parmi les familles des otages, vous avez plusieurs organisations des familles des otages, comme par exemple Forum Tikva, etc., qui disent c'est se tromper complètement de but et c'est jouer le jeu de Sinoir et du Hamas. Vous jouez leur jeu. C'est ce qu'il veut. Il veut voir une division de l'État d'Israël. Les responsables de 6 otages qui ont été assassinés, c'est le Hamas. Ce sont les terroristes du Hamas et certainement pas le gouvernement israélien. Au lieu d'aller en direction d'une unité, vous faites exactement le contraire. Et cette grève est une grève qui est non seulement immorale, mais également illégale. C'est pas seulement Smotrich qui le dit, mais une partie donc de la population israélienne. Je crois qu'on peut dire que comme cette grève, l'affaire des cérémonies de souvenirs pour le 7 octobre, hein, où il y aura 2 cérémonies, la cérémonie officielle nationale et la cérémonie alternative, et comme beaucoup d'autres choses en Israël depuis quelques mois maintenant, cette grève confirme une division véritablement très profonde et inquiétante, évidemment, au sein de la société israélienne.
Les États-Unis discuteraient avec l'Égypte et le Qatar d'un accord final qui sera présenté dans les prochaines semaines et qui est considéré par Washington comme à prendre ou à laisser. Si les deux parties venaient à ne pas l'accepter, cela pourrait mettre fin aux négociations, précise un responsable de l'administration Biden. Le président doit rencontrer dans la journée les négociateurs américains. La réunion se tiendra à la Maison-Blanche en présence de Kamala Harris. Dans le reste de l'actualité israélienne, les forces de sécurité ont déjoué ce matin un attentat à la voiture piégée avec des explosifs qui avaient été placés à l'entrée de la localité d'Ateret en Cisjordanie. Un drone du Hezbollah s'est également écrasé dans la région d'Eshkol sans faire de blessés. Tzal a de son côté frappé cette nuit des structures militaires du groupe terroriste dans le sud du Liban. L'opération de vaccination contre la polio a débuté hier dans la ville de Deir al-Balah, dans le centre de Gaza. 86 000 enfants de moins de 10 ans ont pour l'heure été vaccinés par 470 équipes de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé. Dans le reste de l'actualité internationale, les défenses anti-aériennes ukrainiennes ont abattu cette nuit une vingtaine de missiles qui se sont dirigés vers Kiev. L'attaque a fait 2 blessés, rapportent les autorités locales. Vladimir Poutine déclare de son côté que l'Ukraine n'a pas pu arrêter l'avancée russe dans l'est du pays, et cela malgré l'offensive de Kursk. Il assure d'ailleurs qu'il s'occupera, je cite, des bandits ukrainiens attaquant cette région. L'extrême droite allemande a pour la première fois remporté hier un scrutin régional dans le Land de Thuringe, dans l'est du pays. La AfD a recueilli entre 30,5 et 33,5% des voix. Quant à la Saxe voisine, elle est au coude à coude avec les conservateurs de la CDU. Les sociaux-démocrates enregistrent un nouveau revers électoral avec un score estimé entre 6,5 et 8,5% dans ces deux régions. Olaf Scholz, qui se dit inquiet, appelle à des coalitions sans l'extrême droite. En France, dans le cadre de ses consultations pour nommer un nouveau gouvernement, Emmanuel Macron reçoit ce lundi Bernard Cazeneuve, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand à l'Élysée. Il envisagerait aussi de consulter cet après-midi par téléphone les autres forces politiques pour s'assurer que les hypothèses Cazeneuve et Bertrand permettent de garantir la stabilité. Le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal s'est exprimé à ce sujet ce matin. C'était au micro de BFM.
C'est la décision du président de la République. On voit bien que notre pays traverse une situation politique inédite et le président de la République prend le temps nécessaire pour choisir son futur, sa future Premier ministre ou Première ministre qui aura la charge de constituer une équipe gouvernementale. Moi, je ne regarde qu'une chose, c'est la responsabilité qui est la mienne en tant que Premier ministre, chargé des affaires courantes. Mais encore une fois, les affaires du pays sont d'ampleur et nécessite toute ma mobilisation. Jusqu'à la dernière minute où j'assumerai ces fonctions de Premier ministre, évidemment, je serai au rendez-vous de mes responsabilités et toujours mobilisé pour les Françaises et les Français.
Et Mathilde Panot déclare ce matin au nom des députés LFI censurer tout autre gouvernement que celui de Lucie Castet. Le patron du PS, Olivier Faure, affirme quant à lui que son parti censurera toute forme de continuité avec le macronisme.
La question n'est pas une question de casting. La question, c'est pourquoi faire ? Les Français n'ont pas voté simplement pour voir un espèce de bal avec des gens qui, chaque jour, se présentent pour dire qu'ils seraient effectivement meilleurs que le voisin. La réalité, c'est qu'ils ont demandé du changement, des ruptures avec la politique qui était conduite pendant 7 ans par Emmanuel Macron et son équipe. Et donc, nous censurons toute forme de continuité avec le macronisme. Il y a une coalition, celle du Front Populaire, qui est arrivée en tête de l'élection, et que la logique institutionnelle, la logique démocratique, la logique républicaine, comme dans toutes les démocraties européennes, c'est en réalité de nommer la force qui est arrivée en tête.
Et Olivier Faure qui déplore ne pas avoir été appelé par Bernard Cazeneuve. L'ancien Premier ministre se dit pour sa part disponible pour servir le pays. Marine Le Pen propose par ailleurs au chef des groupes parlementaires de demander une session extraordinaire à l'Assemblée. C'est aujourd'hui la rentrée scolaire pour 12 millions d'élèves. Alors que Gabriel Attal avait fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité absolue, le Premier ministre démissionnaire a lancé ce matin une nouvelle campagne nationale, une campagne qui prend la forme d'un clip vidéo et qui sera diffusée sur les réseaux sociaux, à la télé et à la radio. La ministre démissionnaire de l'Éducation, Nicole Belloubet, affirme également ce matin sur France Inter que l'interdiction des téléphones portables à l'école permettra de lutter contre ce fléau.
L'idée que nous avons, ça part de la question du harcèlement essentiellement, et on s'est aperçu que beaucoup de phénomènes de harcèlement venaient de l'utilisation du téléphone portable, y compris dans les établissements scolaires, bien que théoriquement ça soit interdit. Donc nous nous sommes dit, avec les départements, puisque ce sont nos partenaires dans cette expérimentation, nous nous sommes dit que interdire l'usage de ces téléphones portables pendant les cours, bien sûr, mais aussi pendant les espaces entre les cours, à la récréation, ce pouvait être pertinent. Donc l'idée, c'est que les élèves déposent leur téléphone portable quand ils en ont en arrivant, peut-être certains viendront sans d'ailleurs, et que ces téléphones portables puissent être conservés soit dans des casiers, soit dans des cartables qui seront laissés à la responsabilité de nos enseignants ou des personnels vie scolaire. Il y a plusieurs schémas possible. C'est la raison pour laquelle nous l'expérimentons pendant un certain temps.
Nicole Belloubet qui affirme également tout faire pour qu'il y ait un professeur devant chaque classe. Elle précise que c'est le cas dans l'immense majorité des cas. La petite Camilla, 7 ans, fauchée jeudi dernier sur un passage piéton à Valoris par un motard de 19 ans qui faisait une roue arrière et décédé. Un rassemblement spontané s'est tenu hier soir dans cette commune des Alpes-Maritimes. Des centaines de commentaires affluent également sur les réseaux sociaux pour dénoncer le manque de mesures de sécurité sur l'avenue où s'est produit l'accident. Et enfin, un mot de sport avec les Jeux paralympiques qui se poursuivent. L'Israélienne Moran Samuel a décroché l'or hier en gagnant la course de 2000 mètres d'aviron. Côté français, Lucas Mazur et Faustine Noël remportent la médaille de bronze en double mixte de badminton. Le triathlète Jules Ripstein décroche quant à lui l'or dans la catégorie PTS2, tout comme Aurélie Aubert qui s'impose en finale de la boccia et offre un 8e titre à la délégation française.
Merci Margot Siffer. Vous nous retrouvez dans un instant sur RCJ avec notre invité Grégory Weitz, qui est avocat en Israël et membre du Center for Jewish Impact.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
Après l'Eurovision et pour la première fois en France, retrouvez la star israélienne Eden Golan lors de l'événement musical solidaire de la rentrée du FSJU, Les Raïm à la vie. Rendez-vous le mercredi 25 septembre à 19h au Casino de Paris. Un événement présenté par John Legend avec en guest David Ababou, Aliel, Sharon Laloum et de nombreuses autres surprises. Réservez vite vos places en ligne sur billetweb.fr/alavie. billetweb.fr/alavie ou sur fsju.org. Un concert en faveur des actions solidaires du FSJU en Israël.
Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune. MDA-France.org.
MDA-France.org.
MDA France. Association au service de la vie.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 18 sur RCJ, notre invité ce midi, Grégory Weitz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat en Israël et membre du Center for Jewish Impact. Vous étiez hier à la grande manifestation qui a eu lieu à Tel Aviv. Qu'est-ce qui était différent cette fois, au-delà du nombre de manifestants et par rapport à toutes les mobilisations pour la libération des otages de ces dernières semaines?
Je pense que ce qui s'est passé malheureusement il y a deux jours avec l'assassinat des 6 otages, c'est un petit peu la goutte qui a fait déborder le vase. Je pense que beaucoup de gens ont senti une boule au ventre et se sont sentis un petit peu déconnectés ces derniers mois de ce combat pour libérer les otages. Et j'avais vraiment l'impression que c'était un élan populaire de personnes qui sont sorties pour surtout, principalement, venir supporter les familles des otages et des familles des victimes. Je pense que c'était surtout ça le motto hier soir.
Est-ce que ce que vous exprimez aussi, vous et d'autres, par cette mobilisation, c'est le fait que les négociations, c'est le seul espoir pour vous aujourd'hui?
Écoutez, comme partout, chacun ici a trois avis et c'est mieux que tout le monde. Je n'ai pas les informations sur ce qui se passe au niveau des négociations, ni ce qui se passe vraiment dans le cadre de ces négociations. Ce que je sais malheureusement, c'est que ces civils qui ont été kidnappés n'ont pas de prix, à mes yeux du moins, ça c'est mon avis personnel, Ils n'ont pas de prix, il faut faire ce qu'il faut pour les ramener. Et Israël est en mesure, plus tard, dans le futur, ben, de faire face à des terroristes qui libéreront ou à d'autres menaces sécuritaires sur le pays, comme ils le font depuis, depuis 75 ans.
Est-ce que ce qui joue aussi, au-delà de l'émotion, bien sûr, dans cette mobilisation, c'est le fait de ne pas avoir de perspective? Alors, bien sûr, vous le dites, et c'est dur pour chacun d'avoir une perspective sur ce qui peut se passer, alors que la guerre est toujours en cours. Mais est-ce que, justement, ce ne serait pas aussi aux politiques de fournir quelque chose qui rassure, là où chacun perd des enfants, là où il y a plus de 700 soldats aussi qui sont morts depuis le début de la guerre? Est-ce que le fait que, voilà, qu'il y ait aussi autant d'Israéliens dans les rues aujourd'hui, c'est quelque part un désarroi et une peur de ce qui peut se passer, de cet avenir assez incertain?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, je pense que cette guerre a duré. Je pense que malheureusement, depuis le début, on a compris qu'il est très difficile, et l'histoire nous l'a prouvé aussi, de détruire une idée. De la même manière que l'État islamique n'a jamais été détruit, le Hamas ne pourra vraiment jamais être détruit. On peut l'affaiblir, on peut changer un petit peu la donne, on peut faire en sorte que les choses soient différentes au niveau sécuritaire en Israël pour les prochaines générations. Mais anéantir le Hamas, c'est un objectif qui était défini par le gouvernement, et je pense qu'il était un petit peu présomptueux de sa part. Surtout qu'au final, ce ne sera pas possible, et on voit que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je pense que le Hamas a reçu un grand coup au niveau moral, au niveau des infrastructures, et qu'il serait de maintenant faire ce qu'il faut pour récupérer les otages, ou du moins ceux qui sont encore en vie, et les corps de ceux qui sont encore là-bas, et se remettre en question. Au final, c'est clair que c'est pas nous qui avons initié ce massacre du 7 octobre, c'est clair et net, mais je pense que comme dans chaque période de la vie, comme dans chaque métier, ou que dans chaque poste administratif dans le monde, des fois, il faut savoir se regarder dans le miroir et se dire, ben voilà, on a été un petit peu négligent peut-être. On a le 7 octobre, on a été surpris, on a été, à mes yeux, du moins vaincu. Et maintenant, c'est à nous de nous remettre en question, de nous reconstruire, de faire le nécessaire pour être plus fort, plus intelligent, être à nouveau alerte et redevenir un petit peu cet état fort qui fait un petit peu peur au monde entier, quoi.
Est-ce que ceux qui, en Europe, aux États-Unis, se servent de ce qui est en train de se passer là, en Israël ce week-end pour mettre sur le même plan, quelque part, le Hamas et Israël, comme l'avait fait la Cour pénale internationale, par exemple, qu'est-ce que vous leur dites et comment vous qualifiez, à partir d'Israël, les raisons et le sens de cette mobilisation au-delà de ces potentielles récupérations?
J'ai pas trop, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'influence ou de contact avec des gens... des gens en Europe. Je pense malheureusement que ces 11 derniers mois ont prouvé aussi à quel point quoi qu'on fasse et quoi qu'il se passe, il y aura toujours ce sentiment diffamatoire contre Israël. Je veux dire, ce qui se passe dans le monde et les réactions du public, des gouvernements, des politiques dans le monde par rapport à ce qui se passe en Israël est tout à fait disproportionné par rapport à tous les autres conflits du monde. Pourquoi? Je pense que c'est une question philosophique et historique, mais je suis pas sûr qu'on doit en parler maintenant. Mais malheureusement, je sais pas ce que disent vraiment en Europe, et je suis pas certain que tout ce qu'ils disent a un sens par rapport à une réalité ici ou par rapport à ce qui est vraiment important pour les Israéliens.
Ce qui se voit aussi d'un œil extérieur à Israël, c'est ce sentiment de fracture quelque part qu'on voit sur le plan politique hein, se dessiner. Mais est-ce que cette fracture, elle est forte aussi dans la société israélienne entre ceux qui se mobilisent justement pour la libération des otages et un cessez-le-feu et les autres? Et est-ce que vous sentez-vous que ça fragilise quelque chose en Israël?
Ben, malheureusement, oui. Parce qu'on ne peut pas dissocier ici complètement la situation ou un support aux familles des otages avec la politique, ou du moins c'est très compliqué. Au niveau objectif de le faire des fois, et puis au niveau aussi sentimental, et puis les gens ont du mal ici en Israël. Ici tout le monde est très catalogué, donc c'est soit on appartient à un camp, soit on appartient à un autre. Malgré le fait que durant ces 11 derniers mois on a prouvé que la population, la société israélienne est probablement celle la plus capable à s'unir et à s'entraider en temps de guerre, en temps de problèmes. Malheureusement, il y a des gens avec certains intérêts, surtout au niveau politique, qui mettent de l'huile sur le feu et qui profitent de cette situation. Parce que au final, encore une fois, c'est la société civile qui a géré le pays, j'ai envie de vous dire, durant les premiers mois qui ont suivi la guerre. C'est clairement la société civile qui était là, qui a montré son charisme, sa force. Et les politiciens étaient vraiment totalement en retrait, et c'est ce qui a permis de donner un peu d'espoir à toute cette population ici qui pendant deux ans quasiment, ou un an et demi avant, avait ces débats concernant la réforme juridique, etc. Mais oui, on peut pas se mentir, il y a une fracture, il faut absolument trouver une solution à cette situation. Après, de nouveau, on rentre en politique, et c'est chacun son avis, mais à mon avis, il faut absolument là aussi se remettre en question et savoir se corriger.
Justement, cette fracture aussi, là, cette société civile qui a permis de tenir, qui est en train de s'exprimer, de donner de la voix, en tout cas qui est plus entendue que ce que ça a pu être jusque-là. Ça s'est exprimé aussi par cette grève qui a été déclenchée ce matin. Le gouvernement essaye de la déclarer illégale. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous savez si ça a des chances d'aboutir? Et est-ce que vous déplorez aussi que ces drames que vous vivez, qu'Israël vit, sont en train de devenir quelque part aussi un bras de fer politique?
Si je dois être objectif au niveau légal, cette grève n'a aucun sens. Je pense pas que le syndicat national des travailleurs a le droit de déclarer une grève. Donc, il a déjà déclaré il y a quelques minutes, là maintenant, qu'à 18h, elle s'arrêterait. Parce que je pense que, juridiquement parlant, au tribunal, il a aucune chance de faire passer son argumentaire comme juge devant un juge. Donc, je pense que c'est plus un acte symbolique qu'autre chose. Je pense que c'était plus un acte pour montrer que la situation ne peut pas continuer comme ça. Mais là aussi, c'est parti dans une discussion politique pour le gouvernement, contre le gouvernement, qui fait pourquoi ça a été fait. Je veux dire, ça revient toujours à cette situation de discussion politique, alors que si on devait regarder les faits de manière objective, on comprendrait que c'est pas le cas, c'est pas ça la question, c'est pas ça le débat. Mais on est vraiment tellement catalogué ces dernières années dans ce pays par rapport à pour qui on supporte au niveau politique, que chaque question et que chaque débat et que chaque problème social ou sujet social passe directement dans un débat pour ou contre, noir ou blanc, alors que ça devrait pas être le cas malheureusement.
Dernière question un peu plus éloignée, mais qui peut concerner aussi nos auditeurs et qui nous intéresse. En tant qu'avocat, vous facilitez l'intégration de nouveaux immigrants dans la société israélienne. Comment ça se passe en ce moment? On se doute bien qu'une alia aujourd'hui, elle est différente d'une alia avant le 7 octobre. Comment ça se manifeste?
Alors, j'ai pas des chiffres, mais c'est vrai qu'au niveau sentiment, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris après 7 octobre, après ce qui s'est passé en Europe et dans le monde, qu'ils avaient besoin d'avoir une sorte de porte de sortie ici en Israël, que ce soit des gens qui ont uniquement dit qu'ils allaient un petit peu poser leur vie en Israël, leur vie financière, on va dire, ou d'autres qui carrément ont décidé de tout quitter et de venir. C'est un sentiment, je pense pas qu'il y ait encore des chiffres vraiment officiels. Puis au niveau des Juifs d'Europe, ils sont très pas nomades, mais je veux dire, ils bougent beaucoup, donc c'est compliqué vraiment de savoir combien se sont vraiment installés ici de manière définitive pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on c'est marrant ce sentiment, parce que c'est on voit au final que les Juifs du monde de diaspora et Israël sont vraiment un destin commun au final. Ils ont un même futur, et que un ne peut définitivement pas vivre sans l'autre. Donc voilà, on voit, ça continue, ça vient, et je pense que c'est une très bonne chose que les Juifs continuent de venir en Israël, de venir s'installer, de venir apporter, à poser leur pierre à l'édifice et d'amener ce qu'ils ont de bien de leur culture, de leur pays, que ce soit des Juifs de France, de Belgique, des États-Unis, d'Italie ou d'ailleurs. Et voilà, donc on continue à recommander grandement l'IA. On se pense qu'on est tous dans des temps troubles un petit peu, que ce soit en Israël, que ce soit pour les Juifs de diaspora, ou que ce soit même dans le monde, avec la guerre en Ukraine, en Russie ou ailleurs. Mais je pense vraiment qu'au final, c'est un mal pour un bien. Je pense que malheureusement, ce qui s'est passé cet automne va nous faire... Va au final nous faire grandir, va nous faire renforcer, va nous faire être ceux qui seront de nouveau au devant de la scène. Et je suis un éternel optimiste, donc je pense que ça ira dans un bon sens au final.
Merci beaucoup Grégory Weitz d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Restez avec nous sur RCJ, on se retrouve dans un instant. On sera avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie.
RCJ Midi. Elsa Parienté.
Certains jettent de l'argent par les fenêtres et d'autres vont chez Best Fenêtres. Du 14 septembre au 5 octobre, passez en mode économie d'énergie. Profitez de jusqu'à moins 20% sur vos portes, fenêtres et volets. Il fera peut-être moins 20, mais dehors, vous serez bien au chaud avec 20% d'économisé. Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e et 15 rue Jean Moulin, Les Lilas. 01 43 73 36 36. 01 43 73 36 36. Entreprise qualifiée RGE pour bénéficier des aides de l'État.
Après l'Eurovision et pour la première fois en France, retrouvez la star israélienne Eden Golan lors de l'événement musical solidaire de la rentrée du FSJU, Les Raïm à la vie. Rendez-vous le mercredi 25 septembre à 19h au Casino de Paris. Un événement présenté par John Legend avec en guest David Ababou, Aliel, Sharon Laloum et de nombreuses autres surprises. Réservez vite vos places en ligne sur billetweb.fr/à la vie, billetweb.fr/à la vie ou sur fsju.org. Un concert en faveur des actions solidaires du FSJU en Israël. RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 32 sur RCJ, nous sommes en ligne avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Bonjour.
Bonjour.
Une question ce midi, quelle est la vision stratégique militaire d'Israël? Est-ce que le fait que ces 6 otages aient été tués par le Hamas et ramenés en Israël par Tsahal, est-ce que vous observez que ça a un changement sur ce que compte faire Israël à Gaza?
Bien, écoutez, ce qui est arrivé hier a suscité une vive émotion en Israël. Car il y a parmi le public israélien ceux qui pensent que le gouvernement ne fait pas assez pour retourner nos otages. Et là, je crois que Netanyahou a eu un coup de malchance ou de maladresse peut-être lorsque jeudi soir le cabinet israélien a voté qu'Israël resterait sur l'axe Philadelphie. Il n'y avait aucune raison pour un vote comme cela, puisque c'est le Premier ministre qui décide. Mais apparemment, il voulait montrer que le cabinet est uni, à part le ministre de la Défense, évidemment, qui est contre. Et quelques heures après, apparemment, par pure coïncidence, évidemment, nos otages ont été massacrés par le Hamas. Et il y a ceux qui pensent, il y a aussi beaucoup de voix dans les réseaux sociaux, que lorsque les terroristes du Hamas ont appris la décision du gouvernement, ils ont de sang-froid et cruellement exécuté nos otages. Je n'y crois pas pour une minute. Ils ne sont pas aussi sophistiqués. Je crois qu'ils ont senti que les soldats d'Israël approchaient. Et c'est là qu'ils ont décidé de liquider nos otages. Un crime horrible. Mais pour Netanyahou, bien sûr, ça a été un revers politique très dur, parce que beaucoup de gens l'accusaient déjà avant de ne faire pas assez. Et le fait que ce soit arrivé après cette décision du cabinet a renforcé l'opinion de ceux qui pensent que le gouvernement ne sait pas assez ou est prêt préfère continuer le combat que de libérer les otages. Et donc, il y a eu hier des très grandes manifestations en Israël qui nous rappellent malheureusement les manifestations d'avant la guerre du 7 octobre. Et il y a une grève générale aujourd'hui qui va se terminer à 6 heures. Mais je dois vous dire que l'atmosphère est lourde et que le pays tout entier participe dans le deuil de ces 6 otages exécutés de sang-froid, brutalement, cruellement. Et que si vous voyez la une réaction du public israélien, cela démontre à quel point nous sommes sensibles au fait que c'est notre devoir de faire retourner les otages vivants, ceux qui sont encore vivants, de les faire retourner. Et je crois que c'est un message clair au gouvernement qu'il faut faire plus dans ce sens-là. Et j'espère que ce message sera entendu.
Est-ce que ce deuil que vous décrivez, il est aussi accompagné d'une crainte, celle que le Hamas ne tue à nouveau des otages dans les prochains jours? Parce que est-ce que, selon vous, vous évaluez que les otages aujourd'hui, c'est le dernier levier de pression du Hamas dans les négociations?
Assassiner nos otages, ils savent qu'ils perdent la carte la plus confusante. Ils n'ont pas de carte plus forte que ça. Militairement, nous les écrasons. Ils sont désorganisés. Ce n'est déjà plus une armée. Vous savez, le Hamas, le 7 octobre, c'était une vraie armée de 30, 40 000 hommes. Cette armée a été dispersée. Cette armée a été complètement battue. Elle n'existe plus. Oui, bien sûr, il y a encore des terroristes isolés. Nous combattons encore. Mais le Hamas, comme force militaire, le Hamas n'existe plus. Donc, s'ils veulent quand même arriver à un accord qui puisse sauver peut-être la vie de quelques-uns d'entre eux, eh bien, la carte la plus forte qu'ils ont, c'est les otages qu'ils retiennent. S'ils les éliminent, eh bien, ils savent que Israël continuera ces actions militaires jusqu'à l'élimination complète du dernier terroriste du Hamas, même si cela prend des mois et des ans. Donc, ils ont là une carte à jouer. Ils ont tout avantage à laisser les otages vivants. Et j'espère qu'ils comprennent ce message, car sans cela, leur fin est assurée. À court ou à long terme, nous aurons la peau de chacun de ces terroristes.
Une toute dernière question, Avi Pesner. Les Américains parlent d'une dernière proposition d'accord, une sorte de à prendre ou à laisser. Est-ce que du côté d'Israël, ce serait acceptable avec les mêmes conditions ou des conditions qui évoluent par rapport au dernier accord mis sur la table par les Américains?
Personne n'a encore vu cette proposition américaine. Et moi, qui ai beaucoup d'années d'expérience diplomatique, je sais qu'il n'y a jamais une dernière proposition. Il y a des propositions. On essaye d'arriver à un arrangement. Si on n'arrive pas, il y aura d'autres propositions. Et je ne sais pas en quoi consiste cette proposition américaine. Je crois qu'après l'assassinat de nos otages, l'Amérique aussi comprend mieux à qui nous avons affaire que à des terroristes assoiffés de sang juif. Je sais qu'en Amérique, les répercussions de ce massacre ont été profondes. J'espère qu'en France aussi. Mais en Amérique, ça a été très profond. Le président Biden s'est exprimé. Les candidats à la présidence, Trump et Harris, aussi se sont exprimés. Il est bon que les États-Unis continuent leurs efforts, car nous voulons la libération des otages. Et nous réagirons à leurs propositions quand nous la verrons, peut-être aujourd'hui, peut-être ce soir, ou peut-être demain ou dans les prochains jours.
Merci beaucoup Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie, d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ.
Merci à vous.
Restez avec nous sur RCJ, on se retrouve dans un instant pour notre page culture.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 42 sur RCJ et tout de suite notre chronique littéraire du lundi avec Josiane Savigno.
Les livres, Josiane Savigno.
Comme la semaine dernière, j'ai choisi le roman d'une jeune femme. Shan Haddad est un peu moins jeune que Lisa Hazan. Elle a 27 ans et Aimé Gilles, publié chez POL, est son deuxième roman. Alors, Aimé, c'est Aimé EZ et Gilles, c'est G-I-L. Gilles est une jeune femme et elle est la narratrice de l'histoire de ce trio de jeunes gens. Mathieu, Mathias et elle, Gilles. De quoi est-il question ? De la vie, de l'amour, de l'amitié, des vacances, du voyage et de la liberté. Mais aussi de la jeunesse. De ce moment, on en est incertain de soi, de son identité. Des lieux communs, bien sûr, et une histoire éternelle. Mais il faut voir comment elle est revisitée. Et c'est là que Shan Haddad est excellente, novatrice, avec son style qui ne laisse pas le lecteur en repos. La première scène est magistrale. On est au cimetière. On comprend vite que Mathieu et Gilles sont à l'enterrement de Mathias. Mais on ne sait rien de ce qui s'est passé. La pudeur est là pour m'empêcher de tomber, dit Gilles. Ensuite, on les retrouve tous les trois, bien vivants, et on les suit dans leur quotidien, puis dans leur voyage à travers la France. Et dans leur interrogation, qui est Mathias ? Est-ce que Mathieu et Mathias sont amoureux ? Est-ce qu'ils sont gays ? Et quelle est la place de Gilles dans tout ça ? Est-ce que Mathieu et Mathias a apporté du malheur dans la relation entre Gilles et Mathieu ? Toutes ces questions sont posées dans ce roman de Shan Haddad, mais jamais de manière lourde ou psychologisante. Et ces 360 pages sont un constant bonheur de lecture. Quand j'y pense, dit Gilles, la première fois que je l'ai vu, Mathias descendait des marches. Et finalement, il ne s'est jamais arrêté de descendre les marches. On ne l'a pas compris, on ne l'a pas vu, mais il ne s'est jamais arrêté. Et bien sûr, j'existais avant lui. Aujourd'hui, je le comprends. Je le comprends si bien. Mais il est arrivé et on a descendu les marches avec lui. Ce n'est évidemment pas la morale de l'histoire. Il n'y a pas de morale à cette histoire. Il y a la vie. Je ne peux pas vous raconter ce Aimé Gilles de Shan Haddad, mais que vous dire sinon qu'il faut plonger dans ce texte, qu'il y a une voie, une ambition. Je vais vous lire quelques lignes. À 22h, je suis arrivée et c'est l'odeur de la ville qui me marque en premier. Sans mes amis, sans ma voiture, je rentre chez moi. Je reconnais tout et pourtant je ne connais plus rien. Les sans-abri, la crainte des gens, le bruit des voitures, la lumière orange, les picotements dans les yeux, les traînées de pisse par terre, les oiseaux malades, les chats sous les voitures. Je monte les 6 étages. J'ouvre la porte et voilà ma vie. Toute ma vie devant moi. Voilà, c'est Aimé Gilles, c'est Shan Haddad. À mon avis, elle a de l'avenir et c'est chez POL et c'est excellent.
Merci beaucoup Josiane Savigno. Quel spectacle allez voir en ce moment à Paris? C'est la recommandation d'Amélie Blochstein-Nidam.
Le spectacle culte d'Amélie Blochstein-Nidam.
Bonjour Amélie.
Bonjour Elsa.
Aujourd'hui, vous nous parlez une nouvelle fois de l'un de vos metteurs en scène préférés, Mohamed El Khatib, et de sa vie secrète des vieux.
Oui Elsa, le roi de l'intime a décidé de faire rire et pas du pire cette fois. La vie secrète des vieux est sans aucun doute le spectacle le plus drôle et le plus doux de Mohamed El Khatib. Je vous emmène avec grand plaisir.
La vie secrète des vieux. Alors si je devais résumer l'intrigue, je vous dirais c'est assez simple. J'ai 91 ans et j'ai pas peur de le dire. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants dans la salle. Hein. J'ai envie de faire l'amour tous les jours.
J'ai 91 ans, non pas moi, et j'ai envie de faire l'amour tous les jours, c'est ce qu'on vient d'entendre. C'est donc la voix de Jacqueline, l'une des stars de ce spectacle. Je vous rappelle que le théâtre de Mohamed El Khatib se tient sur le fil. Souvent chez lui, on frise le pathos sans jamais quitter l'élégance. On rit pour pouvoir s'autoriser à pleurer de rire, comme à la veille d'un enterrement. Si la question de la mort est omniprésente dans La vie secrète des vieux, c'est pour magnifier la vie dans ce qu'elle a de plus pur, le sexe. Mohamed El Khatib s'attaque à un énorme tabou. Les vieux et les vieilles ont envie d'assouvir leurs désirs, jusqu'à la mort, qui semble approcher un peu plus vite pour certains et certaines. Dans un éclat de rire, le metteur en scène éjecte la question du grand âge et d'une fin possible en temps réel. Oui, ils et elles peuvent mourir sur scène, là, maintenant, comme Dalida. Et alors, est-ce une raison pour s'arrêter de vivre ?
Je ne veux pas mourir sans jouir encore.
Mais moi non plus, Elsa. Au-delà de la phrase presque potache, cette pièce purement documentaire est le pendant de « Mes parents », un autre spectacle de Mohamed El Khatib qui donnait la parole à la Gen Z. La vie secrète des vieux est un manifeste pour laisser les personnes âgées libres de disposer de leur corps et de leur vie. Elle pointe les privations de liberté, souvent imposées par les familles à leurs parents. On suit l'histoire des amants maudits, Anne et Jean-Claude, tous les deux morts et mortes aujourd'hui, qui s'aimaient à en crever au sens premier. On suit les intimités d'Annie, Micheline, Chile, Martine, Jean-Pierre, Jacqueline et Jean-Paul.
Le désir comme élixir de jeunesse ?
De témoignages en trucs et astuces sur le désir après 70 ans, on avance vers un spectacle où tout est possible, y compris croiser Céline Dion et tourner Manège, l'émission culte de rencontres du siècle dernier. Il donne la sensation que le désir et quelques orgasmes peuvent être un élixir, non pas de jeunesse, mais de vieillesse en bonne forme. Et ça, on en rêve tous et toutes, non ? Mais il ne faut pas oublier que le théâtre d'El Khatib est toujours social, entre deux blagues et pas mal d'aveux gentiment et tendrement graveleux. La vie secrète des vieux pointe du doigt les vides, entre autres le manque de personnel, l'interdiction des assistants sexuels dans les EHPAD, la manie qu'ont les enfants de se mêler de l'intimité de leurs parents. C'est une pièce jubilatoire dont on sort plus vivant que jamais. La vie secrète des vieux, c'est à voir au Théâtre de la Ville dans le cadre du Festival d'automne du 12 au 26 septembre.
Merci beaucoup Amélie Blochstein-Nidam. Et pour finir cette édition, l'histoire juive du jour, c'est avec Jérôme Attal.
L'histoire du jour, Jérôme Attal.
Le 2 septembre 1796, les Juifs des Pays-Bas sont émancipés. L'Assemblée nationale déclare les Juifs citoyens à part entière de la République batave. Le gouvernement national de la République batave, également appelé Batavie, est une république ayant existé entre 1795 et 1806, qui englobait la majeure partie du territoire actuel des Pays-Bas. Décréta donc l'émancipation des Juifs sous l'influence des idées révolutionnaires françaises, accordant la pleine citoyenneté aux Juifs par un décret historique. Cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire des Juifs néerlandais, mettant fin à des siècles de discrimination et d'oppression. Avant 1796, les Juifs aux Pays-Bas étaient soumis à de nombreuses restrictions. Ils ne pouvaient ni siéger dans les fonctions publiques, ni posséder des biens immobiliers, ni exercer librement leur religion. Ils étaient contraints de vivre dans des quartiers séparés et devaient porter des vêtements distinctifs. L'arrivée des troupes françaises en 1795 bouleverse l'ordre établi. Les idées de liberté et d'égalité portées par la Révolution française inspirent les Juifs qui réclament leur émancipation. Le décret du 2 septembre 1796 est le fruit d'une longue lutte menée par les Juifs néerlandais, soutenus par des partisans des Lumières au sein du gouvernement batave. Il consacre l'égalité civile et politique des des Juifs, leur permettant de participer pleinement à la vie de la nation. L'émancipation des Juifs de Hollande est un événement important qui a eu un impact durable sur l'histoire des Pays-Bas et de l'Europe en général. Elle a montré que les principes d'égalité et de liberté pouvaient s'appliquer à tous, quelle que soit leur religion. Nous sommes le 2 septembre.
Merci beaucoup Jérôme Attal. Et pour terminer cette édition, quelques mots sur les 6 otages tués par le Hamas. Qui étaient-ils? Carmel Gad, 40 ans, de Tel Aviv, était une ergothérapeute le 7 octobre alors qu'elle séjournait chez ses parents au kibbutz Be'eri. Des terroristes sont entrés par effraction et l'ont kidnappée. Après 50 jours sans signe de vie, la famille a reçu des témoignages d'otages de retour qui la décrivaient comme leur ange gardien pour survivre à la captivité. Elle leur avait enseigné des exercices de méditation et de yoga. Hersh Goldberg Pauline, qui était né aux États-Unis, avait immigré en Israël avec sa famille à l'âge de 7 ans. Le 7 octobre, il avait assisté au festival de musique Nova et au cours de l'attaque, il a été blessé au bras et des témoins rapportent qu'il a réussi à se faire un garrot à ce moment-là. Eden Yerushalmi, 24 ans, de Tel Aviv, fille de Shirit et Maor, sort de May et Shani, dont on avait entendu le témoignage. Une jeune femme dynamique, elle étudiait pour devenir professeure de Pilates. Et le 7 octobre, elle travaillait comme barmaid au festival de musique Nova. Alexander Lobanov, 32 ans, venait d'Ashkelon. Il était marié à Michal. Ils ont un enfant de 2 ans et un bébé de 5 mois qui est né pendant qu'Alex était en captivité le 7 octobre. Il a été enlevé au festival de musique Nova, lui aussi, où il travaillait comme gérant de bar. Des témoignages indiquent qu'il a aidé à évacuer les gens et s'est enfui avec 5 autres personnes dans la forêt de Berry, où il a été pris en otage. Ori Danino, 25 ans, de Jérusalem, avait prévu de commencer ses études universitaires en génie électrique le 7 octobre. Ori a été kidnappé au festival de musique Nova alors qu'il revenait en voiture pour aider d'autres personnes à s'échapper et à survivre. Et Almog Saroussi, 27 ans, de Ra'anana, une personne dynamique et positive qui aimait voyager à travers Israël dans sa Jeep blanche et avec sa guitare. Almog a été kidnappé au festival de musique Nova lui aussi, où il se trouvait avec sa petite amie Shahar. Shahar a été tué. Almog est resté avec elle, essayant de l'aider lorsqu'elle a été blessée. Il a ensuite été capturé. Et pour finir cette édition, déjà merci à vous de l'avoir suivi. On se quitte avec un moment également fort de ce week-end. Le chanteur israélien Hanan Ben Ari qui a chanté à la levée du corps d'Ori Danino aux côtés du plus jeune frère d'Ori.
איך לגלות לך את חולשותיי גם לעצמי סיפרתי סיפורים עליי אני אתעלף עיוור צועק את חיי בחושך אני ישן וליבי אני נרקומן של עושך כותב בלילה שיר זה מנקה ממני יצר כשנגמר לי אוויר אני בוכה לבד ברכב ואת בוכה בפנים אני רואה אותך נשרפת את מפחדת להסכים שזו לא סתם תקופה חולפת אני כותב בלילה שיר זה מנקה ממני עצב כשנגמר לי אוויר אני בוכה לבד ברכב תן לי את הכוח למצוא בי אומץ לראות סימן גם הילד שהיה בי מת מזמן אני אינני מי שחלמתי מי שדמיינת לקחתי עיניים והפכתי לאט לאט הלב עיוור צועק את חיי בחור אני ישן וליבי ער אני נרקומן של עושר כותב כותב בלילה שיר, זה מנקר ממני עצב, כשנגמר לי אוויר, אני בוכה לבד ברכב.
Merci d'écouter RCJ.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France? Vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite, gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile? Le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaques. Contactez le kiosque solidaire, service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info.
Des temples et des minarets, et on sait vivre ensemble, est-ce qui paraît. Être français, les ronds-points qui fleurissent, draguer les extrêmes, voter pour des miss. Être français, c'est tenir des pancartes, ce petit point qu'on entend sur la carte, c'est ici. Montparnasse, à Limoges, à Drancy, c'est aimer la montagne, aimer la mer, c'est le pont des arts, c'est aimer Césaire. Être français, c'est lever en octobre un verre de vin pour admirer la robe, y boire au prochain congé à la vie ou à la mémoire d'Ilan Halimi. Moi aussi. Qui marche au nom des droits qui grondent, c'est rêver tout bas des États-Unis. Marcel Cerdan, c'est Mohamed Ali. Être français, c'est des gens qui s'unissent, le temps d'une balle ou le temps des cerises. C'est allumer la télé des bougies, cet état d'âme un peu qui nous unit. C'est ici. C'est des gens qui rêvent et qui entrent, c'est l'espoir de mon père dans les années 50. C'est un gamin qui apprend sur le banc d'une salle, un autre qui attend sur un banc de sable. C'est la nuit à Calais, c'est la nuit des Césars. C'est par choix ou par hasard.
Choix ou par hasard, par choix.
c'est aussi sur le DAB+.